croyants, ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes. Un maître soufi actuel dit « L'homme et la femme sont unis par un secret seigneurial. Le premier ne peut atteindre à la perfection que par l'existence de la seconde et inversement. Il est dit que la femme fut créée du côté gauche de l'homme, là où siège le cœur. C'est un évident symbole. C'est la femme qui fait évoluer la société ou qui peut causer sa décadence, car on lui demande de porter le plus lourd fardeau au sein de la société. » Alors moi, pour vous, avec vous, aujourd'hui, je sème les mots pour qu'ils poussent le temps et les hommes et les rêves. Je sème pour que nos enfants récoltent la tolérance, l'ouverture, l'espoir et la foi. Je sème pour que la haine n'habite pas le cœur des hommes qui habite le ventre des femmes. Je sème avec l'espoir que quelques graines emportées par le vent iront dire aux femmes du monde entier que leur patience, leur courage, leur détermination, leur silence assourdissant les rendent admirables, respectables et tellement belles.
Vous écoutez RCF sur la croisette sur 96.8.
Juive, chrétienne et musulmane. À la première, je raconte cette blague juive. Le maire d'une petite ville israélienne visite un quartier en construction en compagnie de sa femme. L'un des ouvriers reconnaît la femme et lui dit « Hé, Ofra, comment ça va ?» Ben, Ofra le reconnaît, elle le présente à son mari, discute avec lui quelques minutes. Et lorsqu'ils sont partis, le mari demande « Mais dis donc, comment connais-tu cet homme ?»« Ben, on était copains à l'école, » répond-elle. « Il voulait se marier avec moi, d'ailleurs. »« Ben, tu as bien fait de ne pas l'épouser, » dit-il. « Tu serais maintenant la femme d'un ouvrier du bâtiment. » Et elle de répondre « Détrompe-toi, si je l'avais épousé, c'est lui qui serait maire aujourd'hui. » Et je dis avec humour, quand une communauté choisit un rabbin, elle doit avant tout s'interroger sur sa femme. Bonjour Eva Moyal.
Bonjour Pauline.
On va développer tout ça tout à l'heure.
Tout à fait.
Femme de rabbin, ça vous va comme titre ?
On m'appelle Eva. Je préfère.
Très bien. À la seconde, j'offre l'humilité à travers cette phrase. La plume ne sait pas ce qu'elle devra écrire. Le pinceau ignore ce qu'il devra peindre. Et le ciseau ne sait pas ce qu'il devra sculpter. Quand Dieu prend en main un être humain pour faire naître une œuvre dans l'Église, la personne qui l'a choisie ne sait pas ce qu'elle devra faire, elle est un instrument et je pense que cela peut être mon cas. Signé Chiara Lubich, dont va nous parler Marie-Françoise Draillard. Marie-Françoise, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, oui. Nous allons parler de femmes de foi. Vous avez eu envie de parler de Chiara. On va expliquer tout à l'heure qui elle est et pourquoi elle vous a à ce point bouleversée dans votre foi de femme. D'accord ?
D'accord.
Ça va ? Vous êtes bien ?
Oui, oui, oui.
Bon, très bien. Alors, à moi-même, hein, musulmane, sur la voie soufie, parfois désespérée, je l'avoue, je relate ce hadith, c'est-à-dire ce dit du prophète Mahomet. Le plus parfait des croyants est celui qui a la meilleure conduite. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Moi, j'ai décidé d'adresser un message aux hommes. C'est beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Alors, femmes, elles ont été chantées, adulées, conspuées, rêvées, blessées, honorées, humiliées, aimées, rejetées, fragiles, fortes, matricielles, spirituelles, vivantes, aimantes, chaleureuses. J'en ai encore, hein ? Compatissantes, lettrées, illettrées, légères, profondes, croyantes, athées, noires, blanches, amies, sœurs, mères, épouses. C'est aux femmes que nous rendons hommage aujourd'hui. Alors, la référente de cette émission aujourd'hui, c'est Carole Glassman. Bonjour Carole.
Bonjour Pauline, bonjour Eva et bonjour Marie-Françoise.
Alors Carole, vous faites partie du Vivre Ensemble à Cannes.
Oui, depuis un certain temps,
voilà.
Depuis le démarrage.
Depuis le départ, vous faites partie de la communauté juive, on peut dire ça comme
oui,
ça on peut dire ça comme ça, mais on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et vous êtes surtout l'assistante précieuse de cette émission, Croyant Ensemble vers la paix sur RCF.
Oui, un peu par hasard, et en fait, par hasard, et un peu d'une façon amicale, conviviale, et surtout quelque chose de, comment on peut dire, un peu curieux, de fait d'être dans une radio catholique, la juive de service, et qui accueille, qui assure
la coordination. Juive, musulmane, ça va, c'est bon, oui, hein, tout va bien et sur RCF, merci.
Des gens,
votre accueil.
Voilà.
Merci. Et puis, bien sûr, vous êtes une femme, jusque-là.
Jusque-là, oui, on ne peut pas dire le contraire.
Tout va bien. Alors, le thème de cette journée internationale de la femme, cette journée internationale de la femme a été décidée par l'ONU. bien sûr, hein, depuis déjà un certain nombre d'années. Au départ, c'est une journée qui a été instaurée comme une réclamation pour essayer de faire bouger les choses. Non pas pour dire que les femmes sont toutes formidables et qu'elles font de beaux défilés de mode, mais pour parler de choses beaucoup plus sérieuses. Cette année, c'est une promesse. Il est temps d'agir pour mettre fin à la violence contre les femmes. On ne va pas nous développer ce sujet, pour autant on le pourrait, mais quoi qu'il en soit, je voulais le spécifier parce que dans le monde, actuellement, il y a encore près de 50% d'agressions sexuelles qui sont commises sur des filles de moins de 16 ans. Près de 70% des femmes à travers le monde ont subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans leur vie. Donc cela vaut la peine, en tout cas, d'avoir initié cette émission et surtout de rendre hommage aux femmes de foi. Et rendre hommage à ces femmes qui ont un peu changé le monde par leur courage, leur ouverture d'esprit et leur tendresse. Eva, c'est à vous que je vais m'adresser maintenant. Eva Moyal, je le rappelle. Donc vous êtes la femme de David Moyal, le rabbin de la synagogue de Cannes.
Tout à fait, Pauline.
Depuis combien d'années ?
Alors, à Cannes, ça fait exactement 7 ans.
Non, pas à Cannes. Depuis combien d'années vous êtes mariée ?
20 ans.
Ah bon, très bien, ok.
Bon, depuis il n'a eu qu'une femme, hein, même s'il est marocain. Et je dis souvent qu'il peut en avoir 4, mais à moi seule, j'en fais 4.
Ça, je suis bien d'accord. Certains hommes sont d'accord également. Alors, Eva, quand on a parlé ensemble, on s'est dit, bon, alors rendre hommage à une femme de foi. Nous sommes toutes ici des femmes de foi. Mais on avait envie vraiment, au sein du Vivre Ensemble, de rendre hommage à certaines femmes connues, pas connues, célèbres, pas célèbres, peu importe, qui ont bouleversé notre vie de femmes, mais de femmes de foi. Et vous m'avez dit, ah, moi je voudrais parler de ma mère.
Ah oui.
Bon, en tant que mère juive, fille juive, je ne suis pas surprise, mais pourquoi particulièrement de cette maman-là ?
Pourquoi ma maman ? Parce que ma maman, d'abord c'est mon exemple, tout le monde aime sa maman, plus ou moins, puisqu'on sort de son ventre. Mais j'ai eu un petit peu le même parcours qu'elle, si vous voulez, alors que ce n'était pas du tout destiné. Si on peut parler de destin ou pas de destin.
Si, on peut parler de destin. Votre maman était femme de rabbin.
Voilà, ma maman était femme de grand rabbin.
À Troyes,
dans la ville de Troyes, la ville de Rachi. Une communauté où il n'y avait pas de juifs à l'époque. Donc, ils sont arrivés à Troyes. Ils ont œuvré pendant 55 ans dans cette ville où ils ont tout bâti, tout construit. Et j'ai toujours vu ma mère travailler dans l'ombre, tout en étant illuminée, tout en ayant sa lumière qui éclairait tout le temps, mais qui a toujours travaillé dans l'ombre, qui a élevé quand même 10 enfants, dont un enfant handicapé, qui a reçu tous les rapatriés d'Algérie à l'époque.
C'était 62.
Dans les années 62. Elle recevait tout le monde. La maison était constamment ouverte. Ça veut dire toujours
comme
à donner.
Comme disait mon enfant, c'était la maison du bon Dieu.
Voilà,
c'est ça,
tout à fait. Ça veut dire que il y avait une telle générosité, un tel don de soi, mais je ne l'ai jamais vue égoïste. Elle ne pensait qu'aux autres, tout le temps aux autres. Et tout le temps dans sa bouche, il y avait des paroles de prière. Tout le temps, c'était merci mon Dieu.
Toujours satisfaite de son sort, en fait, ne se plaignant jamais.
Jamais. Surtout qu'à l'époque, bon, tout le monde connaît l'ancienne génération où les langes, les couches n'existaient pas, c'était remplacé par les langes. Les machines à laver, le linge, pareil. On était toujours tirés à quatre épingles, toujours exemplaires, toujours. C'était quelque chose de magique à la fois et puis d'extraordinaire. Et elle avait toujours cette lumière dans les yeux, jamais elle se plaignait. Jamais on a entendu cette maman se plaindre une seule fois de son sort ou dire « Et elle a élevé mon père. »
Ah, elle a élevé mon père, alors voyons voir.
Elle a amené mon père jusqu'où il a été, parce que outre le fait qu'il soit grand rabbin de Champagne-Ardenne, Il a été aussi général, il a été médaillé dans tout, donc jusqu'aux palmes académiques, les plus hautes distinctions. Et elle était toujours là. Mon père était par mont, par veau. On n'a pas senti l'absence du papa qui était sur les routes tout le temps. Mais elle a tout fait.
On va développer, développer encore plus avant. Déjà, vous nous donnez envie, hein. Vous nous donnez envie et c'est une chance extraordinaire que d'avoir vécu cette enfance-là. Et dans un petit instant, on parlera plus précisément de ce rapport qu'il y a avec vous aujourd'hui, femme de rabbin. Parce que malgré tout, il y a quand même un destin. Hein. On va en parler. Et là, on va se tourner vers Marie-Françoise Draillard. Alors Marie-Françoise, vous faites partie d'un mouvement féminin, chrétien, qui s'étend sur près de 200 pays, presque 200 pays dans le monde, qui s'appelle les Focolari. Est-ce que je prononce correctement ?
Oui, oui.
Ça peut aller. Et évidemment, ce mouvement n'est pas né comme ça par hasard. Il est né après-guerre. Et c'est un petit bout de bonne femme, hein, de 22-23 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelait Chiara Lubich, qui a eu l'idée un jour de quoi ? C'est quoi ce mouvement des Focolari ?
Alors, je ne pense pas que l'on peut dire que Chiara a eu une idée. Mmh. Ça a été une vie qu'elle a vécue, où elle a entraîné autour d'elle un nombre incalculable de personnes, beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes. Ce n'est pas un mouvement uniquement féminin qui s'adresse absolument à tout le monde. C'était pendant la guerre, en 1943, dans une ville de l'Ordre d'Italie, à Trente. Et sous les bombardements, cette jeune fille a fait une expérience intime, personnelle, de l'amour de Dieu pour elle. Elle a compris que Dieu l'aimait personnellement et infiniment. Et immédiatement, elle l'a dit à sa famille, à sa maman en premier, mais aussi à ses compagnes de là où elle travaillait, puisqu'elle était institutrice. Et elle avait besoin de dire « Mais Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime personnellement. » Et ça a commencé à transformer sa vie. Et pendant les bombardements, avec plusieurs compagnes, elles habitaient un petit appartement, elles ont décidé de prendre l'évangile au sérieux parce qu'elles voulaient prendre la parole de Dieu au sérieux. Et dès qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bombardements dans la ville de Trente, dans les années 43-44, elles descendaient dans les abris en emportant avec elles l'Écriture sainte. Et chaque jour, elles prenaient une phrase et elles disaient « Cette phrase, on va la mettre en pratique. » Et entre nous, nous allons nous partager comment la parole de Dieu peut être vécue.
Et dans rendre la parole vivante, c'est
la
ça
parole
le plus
vivante.
Difficile et le plus important.
Donc, pas simplement l'écouter, la lire, l'entendre, mais la mettre en pratique et la partager. Et dans ces abris, dans cette petite ville de Trente, autour d'eux s'étendait un réseau parce qu'une des phrases, principales qui les avait marquées, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé. Ils se sont dit comme je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à donner notre vie. Alors, les sirènes sonnaient, elles ne se précipitaient pas les premières dans les abris. Elles aidaient une personne âgée qui ne pouvait pas marcher, une maman qui avait plusieurs enfants, prête à donner leur vie. Et là, autour d'elles, quand elles se retrouvaient, eh bien, les gens, comme elles, faisaient la même chose et se mettaient à aimer autour d'eux. Et il s'est tissé tout un réseau de personnes.
Mais on aurait pu se dire que ça aurait pu, non pas, je veux dire, s'arrêter là, une fois que la guerre était terminée, etc. On aurait pu se dire, parce qu'il est vrai que dans des moments de guerre ou des moments difficiles, heureusement, l'être humain arrive à développer en lui-même les plus belles qualités, parfois les pires aussi, mais en tout cas là, ce sont les plus belles. Mais ça ne s'est pas arrêté, non seulement ça ne s'est pas arrêté après, mais elle a décidé de vouer sa vie à Dieu.
De vouer sa vie à Dieu. Et avec quelques compagnes, elles ont décidé, après la guerre, de vivre ensemble et de continuer à mener cette vie, je dirais, de communion et d'amour réciproque entre elles. Et une fois, un plombier est venu chez elles pour arranger quelque chose. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui vivent comme ça, dans une paix continuelle? Mais qu'est-ce que vous faites? Faites comme nous, mettez-vous avec d'autres amis, vivez l'évangile et vous verrez que c'est vrai. Et donc, ça a commencé tout simplement comme ça, dans la ville de Trente. Puis Chiara Lubich est allée à Rome. Et puis, petit à petit, ça s'est répandu en Italie. Et le premier pays européen, c'est la France, qui a connu par la suite.
Oui, et puis il y en a beaucoup d'autres, parce que, je le disais tout à l'heure, près de 180 pays, près de 40 000 personnes qui adhèrent à cette spiritualité de l'unité, hein, que j'ai retenu, que tous soient un, c'est ce que Jésus disait.
Voilà.
Donc, et beaucoup de choses qu'on va développer tout à l'heure, parce que ça a dépassé, ça a pris des proportions telles que, de toute évidence, il y a quelque chose d'autre dans l'histoire de cette femme. Alors, bon... la part juive avec Eva Moyal s'est exprimée dans cette émission pour les femmes, en tout cas dans une première partie. La part chrétienne avec vous, Marie-Françoise. La part musulmane, je vais me la réserver. Et alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de rappeler que les femmes, autant que les hommes, ont leur mot à dire et le droit d'apprendre. Mais ça n'est pas moi qui le dis, c'est aussi un hadith du prophète. Et savez-vous qu'il y a près de, je sais pas, au 8e siècle, un certain Abu Hanifa, je voulais lui rendre hommage. Moi, je vais rendre hommage à un homme, mais parce qu'il a permis justement aux femmes, il y a bien, bien, bien longtemps, un des plus grands juristes de l'époque avait décidé dans chaque ville islamique qu'une femme devait être nommée pour veiller au respect du droit des femmes.
On était au 8e siècle. Hein. J'aime autant vous dire que je ne sais pas en quoi nous avons avancé, mais en tout cas sur ce plan-là, nous avons plutôt régressé, en tout cas dans la communauté dans laquelle je m'exprime. Mais nous aurons l'occasion de parler de la communauté juive et chrétienne. Son rapport à la femme n'a pas toujours été simple non plus. Hein. Ce n'est pas aussi évident que ça. Il y avait aussi l'arrière-petite-fille, celle-ci je l'aime beaucoup, l'arrière-petite-fille d'Abou Bakr, qui était un des compagnons du prophète, qui était d'une beauté, paraît-il, absolument extraordinaire. Et évidemment, les hommes voulaient qu'elle se voile. Et elle haranguait ouvertement les hommes de sa communauté en leur disant « Comment serait-il possible de me demander de cacher cette beauté dont Dieu m'a dotée ? S'il m'en a dotée, c'est pour qu'elle existe à la face du monde. » Et elle a toujours refusé de mettre quoi que ce soit sur son visage. Elle était un petit peu révolutionnaire. Et puis, un dernier hommage, ce sera mon troisième, c'est un hommage à des femmes en Belgique, une chrétienne et une musulmane qui se sont réunies pour demander au gouvernement belge de créer une structure gouvernementale consacrée aux femmes de foi de toutes les religions. Cette structure existe aujourd'hui, elle accueille toutes les religions existantes et elle travaille au niveau de l'ONU consacrée aux femmes et fait un travail absolument admirable. Donc, attends, je vais vous donner le nom. Voilà, Yolande Liano qui est catholique et Ravinder Nijjar, qui est sikh. Et toutes les deux ont créé donc ce mouvement qui est relié à Religion pour la paix, dont on parlera tout à l'heure. Carole, si vous deviez rendre hommage à une femme de foi, ce serait laquelle ?
Une femme de foi, bah écoutez, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui nous a quittés il y a 4 ans, qui s'appelait Clara Kravchik et qui est décédée à 103 ans. Et en fait, ma grand-mère, elle était pour moi quelqu'un d'extraordinaire et voilà.
On va en reparler tout à l'heure. Donc la grand-mère, la maman, l'amie, parce qu'on peut dire, Marie-Françoise, que pour vous, Chiara est une amie. On se retrouve dans un petit instant sur RCF. Voilà, Croyons ensemble vers la paix, une émission consacrée aujourd'hui évidemment aux femmes. Vivre ensemble à Cannes souhaite rendre hommage aux femmes de foi. Alors, ce Vivre ensemble à Cannes, Carole, vous êtes la référente pour le Vivre ensemble à Cannes. C'est à peu près équilibré dans l'équipe du Vivre ensemble, les hommes, les femmes. C'est pas que je sois absolument pour les chiffres, hein. C'est simplement de se dire, je crois que j'ai vu à peu près 10 femmes pour 15 hommes ou quelque chose comme ça. C'est relativement équilibré. Si, j'ai fait les comptes, c'est à peu près ça, une dizaine de femmes, il me semble, hein. De ne pas me tromper, j'ai compté.
Il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes,
oui.
D'hommes.
Oui, oui. Ah ben ça, chez les dirigeants, il y a plus d'hommes.
Le
chef d'état-major est un homme. Cela étant, j'ai lu ce matin dans le journal, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai lu dans le journal qu'un cardinal qui va faire partie des cardinaux, vous savez, qui vont élire, qui vont décider qui va être le nouveau pape, un cardinal qui a signifié à tous les autres cardinaux avec lesquels il va travailler, puisqu'on dit qu'ils vont travailler, qu'il s'agirait pour l'avenir de donner une plus grande place aux femmes au sein de l'Église et qu'elles puissent enfin... on ne parle pas de prêtrise ou de toutes ces choses-là, que personne ne s'inquiète, mais en tout cas, il a dit de manière claire qu'il fallait donner une place de plus en plus importante dans l'Église aux femmes. Alors, puisqu'on est parti sur la place des femmes, donc la femme française, juste un petit rappel comme ça, après on revient à votre grand-mère, Carole, hein. Mais la femme française n'a eu le droit de vote qu'en 1900, vous le savez ? 44, hein, c'est juste pour la petite histoire. C'était en 1944, alors que le droit de vote des femmes a été demandé en 1790 par un certain Condorcet. Et depuis, c'est bizarre, les hommes ont les oreilles. Donc, 1944, elles ont le droit de vote.
Un petit peu avant, non, il me semble.
Ah, en tout cas, elles n'ont eu le droit de voter qu'en 1944, même si elles ont obtenu le droit précédemment, parce qu'il y avait la guerre en fait, à cause de la guerre, elles n'ont pu voter pour la première fois qu'en 1944. Alors dans le judaïsme, Eva Moyal, fondamentalement, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ah mais allez-y, hein.
Bon,
allez-y.
Alors moi je m'amuse toujours à dire à mon époux que lui c'est le chef. Et c'est moi qui commande.
Donc, c'est une blague juive ou c'est la réalité ?
C'est la réalité.
Mais cela étant, est-ce que c'est pas comme ça finalement dans la plupart des couples et dans la plupart des familles et dans la plupart des histoires de grands hommes dont on dit qu'une femme se cache toujours derrière un grand homme?
Oui, on fait ce qu'on veut, de toute manière. Mais on le laisse diriger. C'est pour ça que je dis toujours, c'est lui le chef, c'est moi qui commande.
Donc,
que dire de plus?
Non, mais cela étant, il y a eu des révolutions dans le judaïsme, entre guillemets, je mets des révolutions. Non, mais dans le sens où on a vu, nous, en tout cas, de vue de l'extérieur, qui ne sommes pas à l'intérieur de la religion juive, des femmes rabbins, par exemple. Moi, j'ai vu à la télé des femmes rabbins.
Il y a
trois
ou quatre voilà. rabbins.
Non, mais, bon, alors je sais qu'il y a plusieurs tendances, mouvements, comme on dit dans le judaïsme.
Oui, plusieurs tendances, voilà, mouvements. On a les libéraux, on a les massortis.
Voilà, d'accord.
On a les orthodoxes.
Voilà.
Comme chez les chrétiens, Marie-Françoise, hein, pareil, beaucoup de mouvements et beaucoup de différences.
Oui, c'est...
Oui, bien sûr, Marie-Françoise, c'est à vous que je m'adresse.
Je crois que si on voit dans l'histoire de l'Église, du temps de Jésus déjà a donné une place à la femme extraordinaire.
Oui, la plupart des prophètes l'ont fait. C'est vrai qu'ils ont guère été suivis par la suite, par les hommes.
Et puis nous avons l'image de Marie, sa mère.
Bien sûr.
Et puis c'est vrai qu'au cours de l'Église, bien souvent, toutes les responsabilités ont été données aux hommes. Et tout à l'heure, vous m'avez interrogé justement sur Chiara Lubich. Il y a quelque chose de tout nouveau dans l'Église catholique avec Chiara Lubich. C'est que quand c'est un mouvement qui a été reconnu par l'Église...
Les Focolari, donc.
Les mouvements des Focolari reconnus par l'Église. L'Église a demandé à ce qu'il y ait des statues. Ces statues ont été présentées au pape, c'était Jean-Paul II. Et Chiara Lubich lui a demandé, est-ce que vous seriez d'accord pour que le président de ce mouvement soit toujours une femme? Et ça a été accordé.
Donc, officiellement, c'est dans les statuts.
Ouais, c'est dans les statuts. Elle est morte, ça va faire 5 ans, puisque c'était
et
en mars.
Elle a
mars,
été présidente d'ailleurs toute sa vie.
Voilà, elle a été présidente. Et la nouvelle présidente est une femme qui s'appelle Maria Voce. Et ce sera toujours une femme.
En revanche, le vice-président est toujours un homme. Hein,
voilà,
j'ai vu depuis le début, c'est ça?
Exactement. Et le vice-président sera toujours un homme.
Et puis, elle a reçu le soutien de Benoît XVI, elle a reçu le soutien de cardinaux, elle a reçu le soutien de beaucoup de hauts dignitaires, on va dire, du christianisme. Oui. Mais un soutien, pas uniquement dans les mots. Hein, elle a une place importante.
Elle a une place importante, puisque cette spiritualité de communion qui est née plus spécialement au sein du mouvement des Focolari, c'est un nouveau charisme pour l'Église, a été reconnue comme un charisme très important pour toutes, non seulement pour l'Église, mais aussi pour les autres religions chrétiennes, les autres religions, et même pour des personnes qui sont de convictions non religieuses, mais qui veulent se rallier à ce charisme de communion et d'unité.
Bon, de toute façon, je ne veux surtout pas parler de l'islam des femmes et du rapport des femmes et des hommes, parce qu'alors là, on en a pour des heures et des jours. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que comme nous voulons rendre hommage à des femmes de foi, nous allons laisser de côté nos différences, non pas parce qu'il n'y a pas de différences, elles sont là, elles existent, on les accepte telles qu'elles sont, on essaie de s'enrichir de ces différences, c'est ce que l'on tâche de faire au sein du Vivre Ensemble à Cannes, mais pour autant, nous allons aujourd'hui continuer à mettre en valeur le beau, d'accord ? La beauté de ces femmes et la beauté de cette foi. Et on va en revenir à vous, Carole, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette grand-mère qui vous a beaucoup touchée.
Alors, au-delà de la beauté, je dirais l'amour. C'est vraiment l'amour qui est à l'origine de notre vie, puisque sans amour, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas d'amour. Et ma grand-mère, enfin mes grands-parents, parce que c'est très drôle parce que Eva vient de Troyes et mon grand-père et ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, mon grand-père s'appelait Abraham Mandelman et il avait des magasins de textiles à Troyes et c'était Monsieur Albert de Troyes qui a commencé à faire les marchés à l'époque à Troyes et qui a commencé à bâtir une petite
fortune. Vous êtes paysanne alors, vous êtes toutes les deux, sans
savoir le découvrir.
Ben voilà. Oui.
Et donc du côté maternel et du côté paternel, j'ai un grand-père qui a fait partie de la création de la communauté juive de la place des Vosges, qui était enfant de cœur de la communauté juive animée par le rabbin Liché, qui est malheureusement décédé, et qui nous a unis avec mon mari il y a 37 ans avec une dérogation à la place des tournes, à la synagogue de la place.
Et alors, cette grand-mère, est-ce que, comme le disait alors, Eva, elle était cette femme dite de l'ombre, mais qui était très agissante?
Non, je ne dirais pas. C'était, disons que là, il y a eu. Alors là, c'était la guerre. Justement, ils se sont ils ont vécu à Cannes justement pendant la guerre quand c'était en zone libre. Et ma grand-mère était dans l'ombre de son mari, mais elle élevait ses enfants et puis elle a élevé aussi ses nièces parce que quand les parents sont revenus de la guerre, ils n'étaient incapables de s'en occuper. Donc elle a élevé une grande famille. Elle avait énormément de cœur et elle était pratiquante. Et c'est elle qui m'a transmis un petit peu les valeurs de la religion, l'amour et surtout la générosité, le partage.
Voilà. Bon, la mère, hein, matrice, transmission. Ouais, transmission. Alors la transmission, c'est très important. Eva, vous nous parliez de votre maman tout à l'heure et de cette femme, en même temps femme de tête, femme de cœur, femme de ventre, j'allais dire, hein, qui avait toutes ces qualités-là. Ah, oui. Et de foi, bien entendu.
Ah oui.
Au niveau de la foi, vous m'avez dit, c'est elle qui a complètement été l'étincelle de ma foi dans ma propre vie.
Totalement, totalement. C'est-à-dire, j'ai tellement grandi avec tout cet amour, parce que c'est vrai que l'amour, la foi dépasse la connaissance, en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, en hébreu, le terme foi, c'est émouna. Et Emouna, la racine de Emouna, c'est Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'impose, mais qui grandit au fur et à mesure. C'est pas forcément on est avec. C'est pas quelque chose avec laquelle on est, mais c'est quelque chose avec qu'on apprend. Et à chaque fois que vous dites Amen, donc vous vous dites je crois fermement en ça, et petit à petit, on se rend compte que ça grandit. Et ma maman, c'était tout ça.
Et au sein d'une communauté comme celle que votre papa et votre maman ont créée à Troyes, quel est le rôle, ou quel était, même je ne sais pas si c'est le même aujourd'hui, le rôle de la femme du rabbin? Est-ce qu'elle a un rôle particulier vis-à-vis des femmes de la communauté? J'ai lu quelque part que parfois elles avaient un rôle important au niveau des décès de personnes féminines, que, voilà, un rôle qui va un peu plus loin que simplement...
Alors, ma maman, elle faisait tout. Ça veut dire que plus que moi. Donc, moi, j'ai encore de la marge. Attention, je suis qu'à la moitié de ma vie. Enfin, j'espère.
Mais oui, bien sûr. Nous aussi, on l'espère.
Amen.
Amen.
Donc, ma maman, elle faisait tout. Elle faisait le dernier devoir.
C'est ça.
Ce qu'on appelle le dernier devoir pour les femmes. Elle faisait la pureté familiale. Donc, le bain rituel de chaque mois. Elle préparait les femmes au mariage. Elle cuisine énormément.
Et ça veut dire vous cuisinez aussi beaucoup, hein.
Oui. Mais je n'arrive pas encore à sa cheville. Hein.
Donc, très difficile d'arriver à la cheville.
Très difficile, très très difficile. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça. Elle était une oreille, une écoute, et toujours de très bons conseils.
Elle a été heureuse quand vous avez épousé un rabbin, si elle l'a vu?
Alors, il m'a arnaqué, mon mari. Il n'était pas rabbin. Il m'a arnaqué.
Il ne l'était pas au départ.
Non, parce que je repense à mon papa. Je lui disais à chaque fois, papa, je n'épouserai jamais un rabbin. Parce que je voyais l'ampleur
de la tâche.
De la tâche.
Et de la responsabilité.
Et de la responsabilité.
Et puis, aujourd'hui, c'est fait.
Et puis, mon papa me disait, ma fille, ne dis jamais fontaine, je ne boirai de ton eau.
Qu'est-ce qu'ils étaient sages, les
voilà.
Anciens.
Voilà. Et ben, j'ai épousé un rabbin marocain comme mon papa et qui est né le même jour que mon père. Donc, Œdipe ne doit pas être très loin aussi. Donc, mais j'ai toujours dit que mes parents, à la fin de leur vie, n'ont fait qu'un. Et ils n'étaient que l'amour, c'est tout. Et ils faisaient qu'un. Comme vous avez dit, Pauline, au tout début, la femme est sortie du côté gauche.
Donc, le côté du cœur, ça n'est pas un hasard,
et
évidemment.
Mes parents, ils se sont suivis dans la même année. Ils sont partis la même année, donc il y a 2 ans de ça, en 2011. Ma maman, le 14 février, parce que mon papa lui a dit...
Le jour de la Saint-Valentin.
Voilà, mon papa, il lui a dit, non, ne me laisse pas, demain c'est la fête des amoureux. Et elle est partie le 14 février. Et lui, il n'a pas pu attendre, il est parti 6 mois après.
C'est très, voilà. très joli. Que Dieu les accueille, les agrée. Alors, c'est beau, hein, ces histoires d'amour. En fait, c'est d'amour dont vous parlez aussi, Marie-Françoise. Ah, quand vous nous parlez de Chiara Lubich et des Focolari, il s'agit vraiment d'une histoire d'amour qui a duré et qui dure encore, malgré la disparition de Chiara.
Voilà, qui continue, parce qu'il y a tout un mouvement, qui est toute cette spiritualité s'est répandue. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, cette parole qu'on appelle une parole de vie continue à être donnée tous les mois. Et elle est traduite en, je crois, 90 langues et dialectes.
Oui, c'est une revue. C'est une revue.
Non,
qui s'appelle Parole de vie, ou c'est une petite lettre.
Non, c'est simplement un feuillet.
D'accord.
Où il y a une parole, soit enfin de l'Écriture sainte, commentée par Chiara Lubich. Donc on reprend d'anciens commentaires,
bien
maintenant
sûr.
Qu'elle est décédée, et qui est vécue dans le monde entier par toutes les personnes qui désirent le vivre.
Voilà, et ce qu'il y a de très intéressant, parce qu'on parlait et on parle de vivre ensemble, c'est que non seulement au sein des Focolari, on parle d'œcuménisme, mais on parle également d'interreligieux, et on va même au-delà, c'est-à-dire même des personnes non dites, non croyantes, pourraient avoir l'envie de se rapprocher de cette spiritualité, de cette réflexion spirituelle.
Oui, parce que justement, comme je disais, le mot communion, il y a ce mot unité. Vous avez fait allusion tout à l'heure à cette phrase que Jésus avait dite avant de mourir, que tous soient un. Et Chiara, avec ses compagnes, s'est dit, mais quand on dit tous, ça ne veut pas dire simplement les catholiques. Tous, c'est tous les hommes, c'est toute l'humanité, soit un, mais unis. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est l'unité dans la diversité. Je crois que ça va très bien avec le vivre ensemble.
Mais oui, bien sûr.
Et c'est chacun à découvrir les cadeaux que peut apporter l'autre, quelle que soit sa culture, sa religion, et s'il est de conviction non religieuse, mais qu'il désire aussi œuvrer dans cette unité du
genre. Et il y a aussi quelque chose de très important, et Eva, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi, Carole, j'en suis certaine, c'est qu'il y a une dimension des jeunes.
Voilà.
Et la dimension des jeunes, elle est le problème, je vais dire entre guillemets, de la plupart des religions. Parce que faire que la jeunesse s'intéresse à la religion, encore que la religion juive, moi je la trouve un peu plus vivante, mais c'est très difficile de drainer les jeunes dans la foi. Hein, parce que souvent, ils trouvent que c'est des histoires de vieux, qu'on n'est pas très... Enfin, ça, je sais pas, ils sont pas très, très branchés, en tout cas, sur tout ce qui est... Moi, quand je les interroge autour de moi, tous les jeunes adolescents, ils vous disent, oui, oh, d'accord, les églises, c'est pas drôle, il y a toujours que des vieux, la religion...
Oh, je vous rassure, des fois, la synagogue, c'est aussi un petit peu la même chose. Hein.
Bon, bah, donc, ces jeunes, il faut les stimuler.
Ce qu'il y a, c'est que nous, au moment de la bar mitzvah, de la communion, ou de la bat mitzvah, de la communion pour la fille, c'est à ce moment-là qu'on essaie...
Je ne savais pas ça, tiens, voilà,
oui.
Je viens, ben voilà.
Voilà.
Bar mitzvah et alors, bat mitzvah.
Alors, bar, c'est pour garçon, bat, c'est pour la fille.
Et ben voilà.
Et voilà. donc, si vous voulez, on essaye justement, c'est à ce moment-là qu'on risque de les perdre. Donc, je pense que pareil, au niveau de l'Église, c'est exactement la même chose. Une fois qu'ils ont fait leur première, deuxième...
Communion, confirmation,
etc. Après, ça se perd un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'on doit justement régénérer tout ça et rassembler tous ces jeunes et tout. Donc nous, c'est vrai que, par exemple, dans la communauté, on organise des voyages au ski, on leur montre un peu un côté un peu plus ludique.
Voilà, des petites soirées où ils peuvent danser ensemble et se détendre.
Même la femme du rabbin, le seuil de s'immiscer un petit peu.
On arrive à la fin de cette émission, c'est déjà quasiment terminé. Mais oui, ça fait déjà plus de 30 minutes. Donc on va vous renvoyer sur le site consistoireisraélitedecannes.fr pour ce qui concerne la religion juive. Vous renvoyez sur le site Focolare, F-O-C-O-L-A-R-E. Alors j'ai dit Focolari tout à l'heure, parce que Focolari avec un I, c'est quand c'est au pluriel. Hein, une histoire comme ça en italien. Donc .org pour tout ce qui concerne Chiara Lubich. Pour ce qui concerne les musulmans et cette très jolie phrase qu'on a entendue au début du Shir Bentounes, je vous renvoie sur aïssa-net.com. Non, aïssa.net, pardon. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur notre site internet. On va se dire un mot avant la fin, mais les mots de la fin de Vivre Ensemble à Cannes seront: il y a une vérité universelle applicable à tous les pays, cultures et communautés. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. Elle vient de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui s'empresse d'ajouter, et je crois que nous l'avons prouvé aujourd'hui, que donner aux femmes plus de responsabilités, que ce soit au sein de l'Église ou au sein de notre vie politique et sociale, c'est donner une chance à la tendresse. C'est joli ça.
Et à l'amour.
Et à l'amour. Donc on va dire un grand chant d'amour pour toutes ces femmes. Et aujourd'hui, précisément, le 8 mars, sort une chanson qui s'appelle One Woman, qui est une chanson qu'il faut faire entendre sur la terre entière, où les hommes et les femmes se sont unis pour dire que l'on est un. Voilà qui va vous parler, Marie-Françoise. Merci, Marie-Françoise.
Merci, Pauline.
Merci, Carole. À bientôt.
Merci.
Et merci, Eva. C'était un plaisir.
Merci, Pauline.
Voilà.
À très bientôt.
Mon papa chrétien, ma maman juive et mon mari musulman vous remercient parce qu'aujourd'hui, avec vous, je me suis sentie entière. À bientôt, à la semaine prochaine.
Merci.
À bientôt. Au revoir.